Pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste ?
Par passion. Parce que je crois que le journalisme, c'est d'abord une passion. Ce n'est pas ma formation initiale. Ma formation initiale, c'est le droit. C'est juriste. Et puis, j'ai rencontré une personne tout à fait extraordinaire dans ma vie qui m'a communiqué le virus du journalisme, la passion du journalisme, et donc je me suis orienté vers le journalisme, alors que ce n'était pas du tout ce à quoi je me destinais. Mais le réflexe numéro un, c'est la passion. Le numéro deux, c'est que j'ai, je pense, toujours eu envie d'être dans un métier de transmission. Si je n'avais pas été journaliste, je pense que j'aurais été professeur. Instituteur, professeur, ou autre, voilà. Et c'est ça qui est à la base de mon engagement. Avec cette curiosité et cette envie de raconter le monde à ma façon. À ma façon, mais en me fondant sur les faits, en me fondant sur le réel. Voilà, c'est une manière de dominer, si vous voulez, mon environnement. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans le journalisme, par passion de la transmission et par passion de l'actualité en général.
Quelles études avez-vous fait ?
Alors, il se fait que j'ai commencé par... mais je ne suis pas représentatif des parcours habituels journalistiques. Donc j'ai fait d'abord des études de droit, parce qu'à mon époque, avant d'être journaliste, il fallait un autre diplôme. Mais je ne m'attendais pas à faire le journalisme dans mon cas, donc je l'ai fait après. Tant et si bien que j'ai fait 7 années d'études supérieures, 5 années de droit et 2 années de journalisme, dans une université étrangère, si je puis dire, mais de langue française, qui est l'Université libre de Bruxelles, puisque je suis de nationalité belge. Voilà, donc c'est là que j'ai effectué mon parcours d'études. Mais cette question est importante, parce que journaliste, c'est un métier, et un métier, ça s'apprend. Donc quel que soit le mode d'apprentissage, si certains parmi vous souhaitent persévérer dans le journalisme, quel que soit le mode d'apprentissage que vous choisirez, dites-vous bien qu'il faut choisir une formation sérieuse, professionnalisante, pour acquérir un maximum de compétences.
Quand avez-vous commencé à travailler ?
J'ai commencé à travailler dès l'université, dès la fin de mes études supérieures, 1979. Je travaillais comme stagiaire au bureau de Radio France, qui est le groupe de service public, au bureau de Radio France à Bruxelles. Et j'allais les week-ends m'occuper de petites choses, le rangement des archives, voilà, le montage d'un certain nombre de sons pour me familiariser avec la manipulation du matériel qui servait à l'enregistrement, qu'on appelait des Nagra. C'est la marque du matériel d'enregistrement. Et puis progressivement, j'ai appris à élaborer des papiers, à réaliser des interviews, jusqu'au jour de mon premier direct sur l'antenne de France Inter, en novembre 1979, sur une affaire qui traitait de l'Union européenne. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Union européenne, mais ça traitait de l'actualité des communautés européennes. Donc j'ai commencé en 1979, pendant mes études.
Avez-vous voyagé ?
Oui. C'est un métier qui m'a permis, parce que j'ai été correspondant à l'étranger, c'est un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, d'accompagner des femmes et des hommes, députés européens, hommes politiques, ministres, chefs d'État, dans des déplacements. Parce que quand vous êtes correspondant d'une chaîne de radio à l'étranger, vous êtes automatiquement affecté à la presse, si vous voulez, je veux dire, au déplacement de presse ou d'un Premier ministre ou d'un chef d'État lorsqu'il y avait des sommets de chef d'État et de gouvernement. C'est ça qui m'a fait voyager. Et la deuxième chose qui m'a fait voyager, c'est très personnel, ça n'a rien à voir avec mon travail de journaliste, c'est la pratique du rugby. Voilà. Et donc, grâce au rugby, j'ai beaucoup voyagé aussi.
Et où c'est que vous avez voyagé ?
Partout. Enfin, partout. Non. Il y a des pays dans lesquels je ne me suis pas rendu. Bizarrement, je ne suis jamais allé aux États-Unis d'Amérique. Je ne connais pas. Mais les autres pays, oui, la Chine, le sud-est asiatique en général, les pays d'Europe centrale et orientale, Bulgarie, Roumanie, l'ex-Yougoslavie, la Bosnie, la Serbie, l'Europe, je ne crois pas qu'il me manque un seul pays européen. Dans les pays d'Afrique, j'ai principalement fait l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb. Voilà. Principalement le Canada, etc., etc.
Quel endroit vous a le plus marqué ?
J'aurais tendance à vous demander, je vous dis vous parce que dans un reportage, dans une interview, on ne tutoie jamais. On doit toujours dire vous. Donc, où est-ce que... Quel endroit m'a le plus marqué ? Ça s'est passé ici en France. Lorsque j'étais... Je n'ai pas toujours été correspondant à l'étranger. Il y a tout un parcours au sein de mon métier. À une époque, j'ai été correspondant local à Valenciennes. Valenciennes, c'est une ville moyenne du nord de la France, pas très loin de la frontière belge. Et il y avait des conflits sociaux dans la sidérurgie. Ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour être marqué. Et pourtant, j'ai couvert des terrains de guerre. J'ai couvert des terrains vraiment très très difficiles. Notamment en Bosnie. Mais c'est là où j'ai eu les reportages les plus difficiles à réaliser de tout mon parcours professionnel. C'est à côté de Valenciennes, à Trie-Saint-Léger, quand on fermait des usines. J'ai été vraiment marqué, mais au fer rouge. Hein. J'ai été marqué par les rencontres que j'ai faites, les rencontres des femmes et des hommes qui se battaient pour leur avenir social. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc, vous voyez, c'est ici, en France, et pas à l'autre bout du monde. C'est là où j'ai été le plus marqué par des reportages.
Vous êtes-vous déjà senti en danger pendant un reportage ?
Oui, je me suis senti en danger à l'occasion de deux ou trois reportages que j'ai effectués. Deux dans des conditions qui étaient des conditions de guerre civile. Et où les conflits n'étaient pas terminés au moment où je m'y trouvais. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Et un autre conflit qui était un conflit social dans l'est de la France à l'occasion de manifestations dans la vallée de la Chiers à propos de l'implantation d'usines nucléaires, d'installations nucléaires, de centrales. Et il y avait des manifestations extrêmement violentes qui étaient organisées une fois par mois et où les heurts entre les policiers et les manifestants étaient particulièrement violents. Et nous étions quelques journalistes à nous trouver au milieu de tout ça. Et là, j'ai été même blessé, hein, pour tout dire, par des jets de boulons, par des jets de tire-fond qui étaient lancés avec des frondes. Et paradoxalement, c'est un moment très, très violent parce qu'on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas avec cette violence et avec cette force. Oui, il y a des moments où j'ai eu peur, oui.
Quel est votre article favori ?
Alors, il ne s'agit pas d'un article, mais d'une interview. C'est une rencontre humaine absolument exceptionnel que j'ai fait avec l'abbé Pierre. Vous voyez, moi, je ne suis pas croyant. Je suis un athée. Et j'ai rencontré ce prêtre lorsque j'étais rédacteur en chef à Marseille. Je dirigeais une équipe journalistique. Et je pense que c'est la plus belle leçon de vie que j'ai reçue. Et c'est sans doute ce que je considère comme étant mon interview la plus aboutie. Parce que je me suis senti en phase, en osmose, avec la personne que j'interviewais, qui était quelqu'un d'une rare bonté, sincèrement préoccupé du sort des autres. Et ce que j'ai ressenti pendant cette interview, c'est de l'amour. C'est ça que j'ai ressenti. C'était profond. Voilà, ce qui n'a jamais changé mes convictions, par ailleurs, mais je considère que la personne et son action étaient extraordinaires. C'est mon plus beau reportage.
En quoi consiste votre métier ?
Ah, mon métier, il consiste à rapporter et à analyser des faits, donc des éléments du réel qui nous entourent, à les vérifier, à les valider, à les contextualiser et ensuite à les transmettre. Ça paraît peu quand je le dis comme ça, mais c'est un art. Donc ça s'apprend, effectivement. C'est ça, mon métier. C'est avec une conscience importante de ma responsabilité. En tant que journaliste, je suis libre. Je suis libre de mes choix rédactionnels et de la façon dont je vais traiter. Mais cette liberté m'impose un sens aigu de la responsabilité. Puisque j'ai la prétention d'apporter à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me lisent, à ceux qui me regardent, une forme d'explication sur le monde, une forme de vérité sur le monde. À partir de là, sur le plan éthique, sur le plan de la réflexion morale, je dois me dire, attention, j'ai telle responsabilité, j'endosse telle responsabilité. C'est important que je puisse, comment dire, justifier de mes actes, justifier des réponses que j'apporte. C'est en ça que la responsabilité du journaliste est importante.
Comment faites-vous un article ?
Pour schématiser, je suis le canevas habituel, la séquence habituelle d'un journaliste. D'abord, un fait est porté à ma connaissance. Un élément du réel est porté à ma connaissance. Je décide ou non, avec une équipe éditoriale, une équipe rédactionnelle, parfois je ne suis pas seul à décider du choix. Je dois le défendre, il faut que j'expose les motifs pour lesquels j'effectue un choix particulier. Mais une fois que la décision d'enquêter, de rapporter autour de ce fait est prise, je vérifie la réalité de ce fait. J'essaie de m'approcher au plus près du réel, parce que c'est quelque chose de très difficile. Les points de vue peuvent être très différents sur le même objet, sur la même séquence. Donc, j'essaie de vérifier au maximum, de recouper mes informations. Et une fois que ce fait est avéré, je choisis à la fois l'angle qui me paraît le meilleur. Alors, vous savez ce que c'est un angle, puisque vous l'étudiez dans votre web journal. On va dire que c'est la porte d'entrée dans un sujet. C'est la façon. Ce n'est pas la façon. C'est la thématique que je choisis pour l'aborder. Et ensuite, je regarde quel est le genre qui conviendrait le mieux pour mettre ce sujet en valeur. Est-ce que ce sera du reportage ? Est-ce que ce sera de l'enquête ? Est-ce que ce sera de l'interview ? Est-ce qu'un article suffira ? Parfois une brève, si le sujet, entre guillemets, se dégonfle en cours de route. Voilà, donc je travaille selon un séquençage habituel. Et ensuite, une fois que toute cette matière est sur ma table et que je l'ai organisée, que je l'ai hiérarchisée et qu'elle est validée à chaque étape et revalidée, j'effectue une forme de montage final de mon affaire, d'écriture finale de mon affaire, en pensant à l'illustrer aussi. Si c'est du papier que j'écris, si c'est un papier que j'ai à réaliser, il faut aussi que je regarde quelles photographies, quels sont. Tout dépend du média pour lequel je vais travailler. Et on ne travaille pas de la même façon pour une radio, une télévision, un journal de presse écrite ou pour un site web. Ce sont des savoir-faire complémentaires. Mais le fond de notre affaire, la vérification des sources et la hiérarchisation et le montage de notre affaire, c'est la même chose. Et le fond reste toujours une écriture. Au bout du compte, c'est l'écriture.
Quel est le journaliste parfait pour vous ?
Celui qui n'existe pas. journaliste, lui, qui n'existe pas. Je ne sais pas si le journaliste parfait existe. Il y a des exemples de journalisme. On peut citer Albert Londres, on peut citer... Il y en a beaucoup. Mais le journaliste parfait serait celui qui parviendrait à s'abstraire de toutes les contraintes intellectuelles, morales, sociales, idéologiques, qui pèsent en général, enfin qui pèsent ou qui animent ce que nous sommes. Ça, c'est du journalisme parfait. Le journaliste parfait, c'est comme la perfection. C'est une recherche. C'est un idéal. Il faut y tendre, mais on ne peut pas prétendre avoir atteint cet idéal.
Quel est votre avis sur le Covid ?
J'aimerais bien avoir un avis sur la Covid. Parce que, oui, vous avez deux possibilités. Hein. C'est le Covid ou la Covid. Si vous le francisez, si vous le verbalisez de façon française, vous direz le Covid. Et ça ne me choque pas. Souvent, vous entendez dire dans les médias la Covid, simplement parce que les termes sont d'origine anglaise. Et que le « dé » signifie « disease », c'est la maladie. Donc de la même façon que vous dites le FBI parce que c'est un bureau ou la CIA parce que c'est une agence, souvent on entend dire la Covid. Je referme cette parenthèse, c'est pas la peine de la garder dans le montage final. Je n'ai pas d'avis, je constate les faits, et si j'étais encore journaliste en activité, je les relaterais avec les mêmes hésitations, les mêmes doutes, la même humilité que tous ceux qui sont amenés à le faire, parce que ce n'est pas évident. Les scientifiques eux-mêmes sont dans l'incapacité de nous dire une vérité à ce propos. Donc nous vivons tous en ce moment, enfin quand je dis en ce moment, c'est depuis 2 ans déjà, dans une forme de principe de précaution. On baigne dans ce principe de précaution. Maintenant, j'ai un avis personnel, un avis engagé, c'est que je viens d'une génération qui fait confiance à la science. J'ai confiance en la science et j'ai confiance en la vaccination. Et donc je suis favorable. Je ne suis pas, comme on dit, un anti-vax. Je ne suis pas du tout dans une approche complotiste dans une approche anti-quelque chose. Mais ça, c'est mon approche personnelle. Et voyez-vous, si je faisais mon travail de journaliste, je pourrais très bien donner mon opinion personnelle. Personne ne m'interdit de le faire. Mais je serai dans l'écriture très pondéré, très prudent et très respectueux des points de vue, des opinions qui peuvent s'exprimer à ce sujet-là. Donc voilà, je ne connais pas l'origine précise de cette pandémie. Je constate, comme vous, que nous n'en sortons pas vite, mais que peut-être existe-t-il des moyens de combattre et d'être actif. Je suis pour autant lucide sur les intérêts financiers énormes qui sont en jeu, hein, et notamment les intérêts financiers des entreprises pharmaceutiques. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un béni oui-oui qui accepte tout. Qui, voilà. Mais encore une fois, chaque information doit être pesée, vérifiée et recoupée.